Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline. Avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous retrouver sur le pont du cargo de Radio Caroline, dont le précédent épisode, que je vous recommande si vous l'avez raté, fut consacré à Quentin Tarantino, au parcours pas banal et passionnant de ce fou de cinéma, de tous les cinémas, comme on a pu s'en rendre compte. Bien sûr, pas mal de musique de film dans ce précédent numéro de Radio Caroline, car la musique est essentielle à l'élaboration des longs-métrages du réalisateur, et ce, depuis toujours. Or, il faut le savoir, c'est une femme, Marie Ramos, qui, depuis le premier film de Tarantino, Reservoir Dogs, souffle à l'oreille du réalisateur les morceaux qu'il gagnerait à mettre dans ses bandes originales ou qui part à la recherche de ceux improbables et aux auteurs parfois inconnus qu'il souhaite y placer. Et donc aujourd'hui, je vous propose de revenir précisément sur la façon souvent étonnante et alambiquée dont se conçoivent et se composent les bandes originales de films, celles de Tarantino en l'occurrence, d'en apprendre sur l'histoire des recherches dignes parfois d'un travail de détective, recherche de certains morceaux destinés au film du réalisateur, et donc au final de se régaler d'une foule d'anecdotes, mais aussi d'extraits de morceaux parfois inconnus ou oubliés et pourtant réjouissants de l'histoire du rock, de la pop et de la soul. Pour évoquer la bande originale de son tout premier film, Reservoir Dogs, retrouvons Quentin Tarantino en 1992 sur la croisette lors du Festival de Cannes où son film vient d'être projeté hors compétition et hors catégorie. Je l'ai raconté lors du précédent épisode. Il a été projeté lors d'une séance spéciale de minuit. Film qu'a vu et apprécié un journaliste belge qui va donc l'interviewer. Quentin Tarantino, excité comme une puce, explique au journaliste belge que la musique que l'on retrouve dans son long métrage est finalement celle qu'il écoutait ado et qu'elle offre un contrepoint à la dureté de certaines séquences, qu'elle rend le film plus facile à voir. Il précise aussi que malheureusement, la musique de film est devenue un gros business qu'on n'est plus à l'époque d'Easy Rider où Dennis Hopper pouvait appeler le leader des Byrds pour lui demander une chanson à l'œil. Aujourd'hui, dit-il, nous sommes donc dans l'archive que vous allez écouter en 1992, ça coûterait 300 000 dollars. Et 300 000 dollars, c'est évidemment impossible pour un film à petit budget comme Reservoir Dogs. Cela dit, Tarantino précise aussi que pour ce premier film, néanmoins, il ne voulait pas qu'on lui dise tout le temps « Ah non, ça, on peut pas ». Il fallait essayer par tous les moyens d'obtenir les chansons qu'il souhaitait. Et grâce à sa superviseuse musicale, finalement, il a pu les avoir, ces chansons. On l'écoute.
Well, you know, that's the music I grew up listening to, and I thought it was like just I thought they were a neat counterbalance, all right, to the rudeness and the roughness in the movie. It makes the movie easier to watch. You see, the problem in America, I'm sure probably all over the world, when you make a movie is you know the business of putting songs in movies has become big business. You know, it's not like the days of Easy Rider where you know, Dennis Hopper can call up Roger McGuinn from the Byrds and like they give him a song. $100,000 now, or maybe $300,000 now, and that he did for nothing. And so, like when you're making a low budget movie like my film, the problem is you can't afford to do this. But I said, look. We're going to do it. We're going to figure it out. No, we can't afford to pay a lot of money. We're just going to have to get them cheap. But we can't say can't. We have to figure it out. We're just going to have to figure out a way. And we did. We had a wonderful music supervisor and we got them all.
Ainsi donc, pour gorger de musique la BO de Reservoir Dogs, c'est sur deux femmes, en réalité, que pourra compter Quentin Tarantino. Karine Ratchman, secondée de Marie Ramos, celle-ci devenant l'unique superviseuse musicale du réalisateur 2 ans plus tard, dès 1994, et ce pour tous les films qu'il réalisera. Et c'est donc d'elle essentiellement que nous allons parler. Un travail qui, en général, consiste évidemment à répondre aux demandes parfois vagues ou imprécises des cinéastes, mais aussi de façon proactive à leur suggérer des morceaux en phase avec l'ambiance de leur film ou qui enrichiraient avantageusement leur soundtrack ou doperaient l'émotion des spectateurs. Avant de clearer les droits musicaux des chansons sélectionnées, c'est-à-dire de vérifier que ces droits sont disponibles, que les auteurs, compositeurs et interprètes de ces musiques sont d'accord avec l'utilisation qui en sera faite et en espérant que les montants de ces droits de synchro, comme on les appelle, rentrent dans les budgets, et souvent c'est là que ça coince. Un job qui peut aussi consister, à Prange, à aider les acteurs à entrer dans la peau de leur personnage en leur proposant une playlist ad hoc. Alors pour ce qui est de la connexion entre Quentin Tarantino et Mary Ramos, qui va devenir sa superviseuse musicale, et comme cette dernière le racontait récemment au journal Le Monde, elle s'est faite via le comédien britannique Tim Roth, qui, fraîchement débarqué à Los Angeles pour tourner Reservoir Dogs, s'est retrouvé par hasard dans la même bande de potes que la jeune femme. Tim Roth qui, entre deux sorties, lui présentera Quentin Tarantino, lequel, impressionné par la culture musicale de Mary, lui proposera d'être la coordinatrice musicale de ses deux premiers films, sous la coupe de la superviseuse de l'époque, Karine Ratchman, avant, je disais, que Mary Ramos n'opère seule. Quentin écrit la plupart de ses scènes avec une musique en tête, sans se soucier de sa disponibilité, raconte Mary Ramos. Il y a une vingtaine d'années, pour Kill Bill, il m'a remis la VHS d'une série japonaise des années 70, The Yagyu Conspiracy, et il m'a dit « j'ai besoin de ce thème ». Il n'y avait pas le moindre crédit, aucun générique, rien, et donc ça s'est passé comme souvent, un vrai travail d'enquêtrice. Et voilà comment Yagyu Conspiracy de Toshiaki Tsushima s'est retrouvé en fond sonore d'une des scènes de Kill Bill 1.
I want you to tell him all the information you just told me. I want him to know what I know. I want him to know. I want him to know. And I want them all to know. They'll all soon be as dead as a rat.
Lors du tournage de Pulp Fiction, se rappelle par ailleurs la superviseuse musicale, Quentin nous appelle en catastrophe. Bruce Willis doit chanter une chanson en voiture. Est-ce que vous avez des idées ? Je lui envoie illico une cassette avec mes morceaux de country préférés, dont celui qu'il retiendra, Flowers on the Wall des Stotler Brothers. Un titre gravé en 1966 avant que le groupe ne le réenregistre en 1975, version choisie pour son film par Tarantino. Sur la BO de Pulp Fiction, sortie en 1994, on trouve notamment une reprise, celle de Girl, You'll Be a Woman Soon, par le groupe Urge Overkill.
Ce podcast ne contient que des extraits musicaux pour des raisons de droit.
Comme il s'agit d'une reprise, l'autorisation n'est pas seulement à demander aux interprètes, en l'occurrence le groupe qui l'a réinterprété, Urge Overkill, mais aussi au compositeur de l'original, Neil Diamond, qui avait enregistré cette chanson en 1967. Mary Ramos, superviseuse musicale de Tarantino, donc, entre autres, explique que, dans ce cas précis, il n'a pas été simple de convaincre Neil Diamond qui craignait que le film de Tarantino ne fasse l'apologie de la drogue. Ramos lui assurant, lis-je, que si le scénario de Pulp Fiction s'attarde sur les psychotropes, c'est pour mieux en condamner les excès. Ben tiens, Neil Diamond acceptera finalement et la notoriété de sa chanson se verra une fois de plus revivifiée. Mais il est arrivé que les digues ne cèdent pas, que la superviseuse ne gagne pas la partie malgré les contreparties financières plantureuses. Et plantureuses, elles le sont surtout devenues une fois la notoriété de Tarantino acquise. Par exemple, pour Inglourious Basterds, qui date de 2009, Tarantino voulait absolument un extrait de l'opéra Chevalier à la rose de Richard Strauss. Quoi qu'il en soit, les héritiers de Richard Strauss refuseront que la musique de leur ancêtre soit associée au film qui se déroulait durant la Seconde Guerre mondiale. Pour rappel, le film raconte la vengeance d'une jeune juive allemande, Shoshana Dreyfus, Mélanie Laurent, dont la famille a été assassinée par les nazis, ainsi que les plans d'un commando envoyé en Europe pour éliminer les hauts dignitaires du Troisième Reich. Et on a reproché, au lendemain de la Seconde Guerre, à Richard Strauss sa trop grande complaisance avec le régime nazi. Ce qui explique peut-être la réaction de ses héritiers. Finalement, conclut Mary Ramos, on s'est rabattu sur Cat People de David Bowie et, à mon sens, le film y a gagné.
Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Au registre des trouvailles musicales dégotées grâce aux bonnes relations tissées par Mary Ramos avec les firmes de disques, il y a un titre inédit du rappeur Tupac Shakur qui, sans ses liens, sans ses bonnes relations, n'aurait évidemment jamais pu se retrouver sur Django Unchained en 2012. Son label m'a proposé des chutes vocales du rappeur qu'on a juxtaposées à l'un des morceaux favoris de Quentin, The Payback par James Brown, explique-t-elle. De même que Mary Ramos récupérera, pour Once Upon a Time in Hollywood, les partitions d'une composition de Bernard Herrmann, initialement écrite pour un film de Hitchcock, mais que ce dernier avait refusé. Et puis, un jour, autre cas de figure, Tarantino sortira de sa semi-retraite romaine un compositeur dont il est totalement fan, Ennio Morricone. Les deux hommes collaboreront le temps de deux films, Morricone composant tout d'abord une ballade hautement mélancolique pour Django Unchained, encore. Par la suite, c'est une BO complète que Tarantino demandera au maître Morricone pour Les 8 salopards en 2015. Comme une première version du scénario avait fuité, Quentin était parano, raconte Mary Ramos dans Le Monde toujours. Après d'âpres négociations, il a accepté que je fasse suivre le script à une amie interprète vivant à Milan, qui l'a traduit. Dans le plus grand secret, ce scénario a été transmis à la chanteuse Caterina Caselli, qui l'a remis en main propre à la femme d'Ennio Morricone. Femme d'Ennio Morricone qui a trouvé les mots justes pour convaincre son mari de composer cette bande originale. Petit problème, dans sa première version, cette BO ne durait que 27 minutes. Or, il en faut 30 au minimum pour concourir aux Oscars. Alors, ajoute Mary Ramos, j'ai convaincu Quentin de renoncer à un autre morceau auquel il tenait beaucoup pour le remplacer par une formidable composition d'Ennio Morricone, La Lettera di Lincoln. Les 30 minutes seront ainsi atteintes et quelques mois plus tard, Ennio Morricone remportera son premier Oscar pour une bande originale précise, à l'âge de 87 ans. Ennio Morricone disparaîtra 5 ans plus tard, en 2020. Revenons à Kill Bill, sur la bande originale duquel on trouvait le classique Don't Let Me Be Misunderstood. Mais pas dans la version originale de Nina Simone, ni même dans celle des Animals, datant du milieu des 60s. Non, ce que veut Tarantino à l'époque, c'est la reprise qu'on a faite en 1977, le groupe Santa Esmeralda, formation dont le chanteur Leroy Gomez est américain et dont le producteur Nicolas Korski est français. La superviseuse musicale contacte donc le label qui détient les droits de cette version, lequel tente de la dissuader de tenter le coup car le producteur et l'interprète sont depuis bien longtemps fâchés, or il faut l'accord des deux. Mais pas de quoi décourager la professionnelle. Une fois l'accord du premier dans la poche, reste à convaincre, mais surtout à retrouver le chanteur qui vit en réalité dans le sud de la France depuis bien longtemps. En épluchant tous les annuaires et les avis de décès du Massachusetts à la recherche du bon Gomez, dit-elle, je suis remontée jusqu'à sa mère, qui vivait toujours aux États-Unis, laquelle m'a mis en contact avec lui en France. Et on a fini par récupérer les droits de cette chanson. Alors bien sûr, la question comment Quentin Tarantino a-t-il pu tomber sur cette production française ? Eh bien tout simplement parce que sorti en décembre 1977 sur le label Casablanca Records, le même label que Kiss, ce titre deviendra disque d'or aux États-Unis en 1978 et qu'à 14-15 ans, à l'écoute des radios de Los Angeles, Quentin n'a pas pu le rater, ce titre. Et justement, pour les besoins d'un documentaire que j'ai réalisé il y a quelques années, j'avais retrouvé Leroy Gomez, ainsi que l'arrangeur de ce morceau, l'orchestrateur, feu Raymond Donnez. On va donc entendre Raymond Donnez, puis Leroy Gomez, ainsi qu'une archive où Nicolas Korski, en 1978, à l'époque de ce tube, à bord d'une limousine blanche filant sur une avenue de L.A., exprime sa fierté.
Nicolas Korski m'a dit « J'ai une nouvelle idée, il m'amène une cassette qui durait une minute » où on entendait « Don't let me be misunderstood », ce vieux titre, avec un accompagnement flamenco et un pied de batterie qui faisait disco. Il me dit « Voilà, il faudrait en faire 16 minutes ».
Quand j'ai entendu les arrangements, c'était très loin de Nina Simone ou les Animals qui a fait « Baby, do you understand me now ?»«
You understand me now ?»
J'arrive devant le micro. Ils ont dit, Leroy, qu'est-ce que vous nous proposez? Et j'ai fait des trucs qui tournaient et j'ai dit, Baby, you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Baby, do you understand me now? Je crois qu'on a vendu 1 million Oh, 6 mois, mais c'était incroyable. C'était incroyable.
C'est en effet la toute première fois qu'un groupe français, des compositeurs, une équipe à 100% française, obtient cette distinction suprême, extrêmement sérieuse, qu'est ici le disque d'or. Alors, outre une satisfaction personnelle, je voudrais y voir une porte ouverte pour l'avenir, une porte ouverte pour tous les jeunes compositeurs, les producteurs français, qui pourront enfin apporter un peu de leur créativité au-delà de l'Atlantique, au-delà de ce mur qu'était autrefois le marché anglo-saxon pour nous.
Nicolas Korski à Los Angeles en 1978. Nicolas Korski qui, le 20 octobre 2014, sera retrouvé égorgé dans la cuisine de son appartement du 16e arrondissement de Paris, son corps dénudé, un couteau ensanglanté à ses côtés. Un crime, à ce jour, jamais élucidé. Pour terminer, je voulais vous partager cet article paru dans le Los Angeles Times en 1998 au sujet de notre amie Mary Ramos et de celle qui est alors son associée, Michele Kudzinski. Lors du tournage de Jackie Brown, le producteur de Tarantino, Lawrence Bender, avait fourni au réalisateur une pile de CD pour l'inspirer sur le plateau. Un morceau bluesy d'Elvin Bishop, She Puts Me in the Mood, capte l'attention du réalisateur alors qu'il s'apprête à tourner une courte scène où un personnage passe un appel téléphonique tendu depuis la cabine d'un bar à hôtesse. « Je veux utiliser cette chanson dans le film », lance le réalisateur à son producteur Lawrence Bender. Et bien sûr, ce dernier n'en a pas encore les droits. Lors d'une pause, Tarantino revient à l'attaque et lui ordonne d'obtenir ses droits au plus vite car il veut être sûr d'être en possession du morceau avant de tourner cette scène. Bender appelle dès lors ses conseillères musicales, Mary Ramos et son associé, Michele Kudzinski, réputés, lis-je toujours dans cet article, pour leur énergie débordante et leur ténacité à toute épreuve, capables de passer 3 mois à se battre pour obtenir un morceau convoité. « Trouve-moi ce titre tout de suite », lance le producteur au téléphone à Mary Ramos. La conseillère décroche alors un téléphone fixe, retrouve la trace du propriétaire de la chanson à Chicago. « Bonne nouvelle », lui lance-t-elle, « Quentin Tarantino veut utiliser une de vos chansons dans son prochain film. » Après avoir précisé le titre et demandé le prix, elle insiste « et il faut que ce soit réglé immédiatement, sinon ça ne se fera pas ». L'homme propose une somme raisonnable à 4 chiffres. Ramos le remercie, raccroche, avant d'annoncer à Bender, le producteur, que Tarantino, le réalisateur, peut utiliser la chanson et le tournage peut ainsi reprendre. Généralement, conclut le Los Angeles Times, Mary Ramos et son associé négocient les droits musicaux par téléphone, mais peuvent également recevoir dans un bureau chaleureux situé sur une portion élégante de Sunset Boulevard, entre les hôtels Château Marmont et Mondrian. Au fait, cet article nous précise également qu'à l'époque de sa sortie, le CD de la bande originale de Reservoir Dogs avait rapporté plus d'argent que le film lui-même au box-office américain. La boucle est bouclée. Notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit.
Ce podcast ne contient que des extraits musicaux pour des questions de droit. Pour une expérience complète, rendez-vous sur ovio.rtbf.be.
Classique 21, le média rock de la RTBF.